phase 2.
Aujourd'hui, on vous emmène dans le cœur du Marais, quartier du Marais à Paris. On est à quelques mètres du musée Picasso. On a rendez-vous au domicile de notre invité. On se trouve pile devant sa porte. On va taper sur le digicode numéro.
La conversation. La conversation. Bertrand Pichot.
Bertrand Pichot.
Alexandre Lemierre.
Alexandre Lemierre.
En général, une belle conversation, c'est une conversation à laquelle on ne s'attend pas, dont on réalise après coup qu'elle a été un événement dans votre vie.
Romancier, philosophe et essayiste, Pascal Bruckner a signé 12 romans, 15 essais et traduit dans une trentaine de langues. Au-delà d'avoir lu ses écrits, vous en avez aussi peut-être vu sur grand écran, à l'image de son roman Lune de Fiel, adapté au cinéma par Roman Polanski. Lui qui jeune se rêvait pianiste de bar et voulait être Mick Jagger ou rien, est finalement devenu lui-même ce qui, espérons-le, le satisfait malgré tout. Pourfendeur du politiquement correct, volontiers contestataire, indépendant et tenace, il semble ne pas lui déplaire, ne vous en déplaise, de déplaire parfois. Eh bien tant pis pour lui, car son nouveau livre, Un an et un jour, a tout pour plaire. Il traite du temps, de notre rapport au temps, de sa volatilité, de sa relativité. Et c'est bien là l'unique problème de son ouvrage. À sa lecture, on aimerait que le temps s'arrête, qu'il suspende son vol, afin que son histoire n'ait point de fin. Car voilà là un récit aussi hypnotisant que captivant, dont la fantaisie séduit, le burlesque amuse, l'étrangeté dérange et trouble délicieusement. Enthousiasmant et réjouissant, voire un peu jouissif aussi, de par sa bizarrerie, c'est avec délectation que l'on accepte de se laisser perdre dans cet univers à nul autre pareil. Un monde digne du cinéma de Kubrick, de Spike Jones ou de Terry Gilliam, tant son atmosphère rappelle tout autant Shining dans la peau de John Malkovich que Brazil. Certains personnages, tels cette femme qui allaite des adultes fortunés, ont même un parfum purement félinien. Voilà, parmi bien d'autres raisons, ce qui nous a donné envie de l'inviter à nous inviter chez lui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la conversation avec aujourd'hui Pascal Bruckner, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Écoutez, je vais très bien, surtout après ce portrait que vous avez donné de mon roman, je suis ravi, je suis enchanté de toucher aussi.
Pourquoi pas particulièrement ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans ce qui a été dit ?
Ce qui fait plaisir à un auteur, c'est d'abord qu'on aime son livre, je crois que c'est d'abord ça, et ça n'a rien d'automatique. Et puis, ce qui fait plaisir aussi, oui, c'est les comparaisons, c'est le mélange d'étonnement, d'inquiétude.
C'est ce que vous vouliez?
Oui, c'est ce que je voulais, parce que j'aime beaucoup les films inquiétants, même les films d'horreur, les films d'épouvante ou les films catastrophes. Et c'est vrai que j'avais envie, dans ce livre, de recréer un peu l'ambiance de tout ce cinéma que je regarde régulièrement et je continue à regarder dans mes moments de loisirs, mais donc voilà, je trouvais que la critique était particulièrement accordée avec mon projet.
La peur vous plaît ?
La peur est un sujet passionnant, et que les livres ou les films ou les bandes dessinées qui vous font peur ont pour objet justement de focaliser ce sentiment sur une histoire précise pendant un laps de temps défini. Et donc c'est une manière de vous purger, c'est une catharsis.
Vous nous avez accueillis dans votre entrée, on est passé par un endroit où il y avait un piano.
Oui.
Juste à part d'entrée, vous jouez vous-même ? Enfin, c'est un piano électrique.
C'est un piano électrique, oui. Je rêverais d'avoir un piano à un quart de queue, mais alors ici c'est un peu petit, outre le prix. Mais oui, j'étais piano bar quand j'étais étudiant, et puis je continue. J'ai repris des cours de jazz, et donc j'essaie de jouer un peu tous les jours.
Ah oui, quand même.
Mais pour progresser, il faut vraiment jouer avec un groupe ou avec un guitariste ou avec quelqu'un. Donc je ne progresse pas, mais je ne recule pas. Mais c'est vrai que j'aurais adoré être pianiste. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure est tout à fait vrai. Ça reste un de mes rêves avortés.
Et puis on a pris un petit escalier, on est monté à un étage et là on est au niveau de votre salon bureau.
Oui.
Vous êtes collé à votre bureau, un beau bureau noir laqué. C'est là que vous travaillez ?
Oui, oui, c'est ici que je travaille. Oui. Je suis arrivé ici il y a 11 ans. Donc au début j'avais du mal à me faire au lieu puisque quand même chaque appartement a une âme qu'il faut apprivoiser. Et donc voilà, c'est ici que je vis. Et en haut j'ai mon lit sur une mezzanine.
Oui,
ça fait un peu étudiant, mais ce côté un peu comment dire décalé me plaît, car j'ai l'impression, le fait de monter les escaliers tout le temps, j'ai l'impression de rester encore un peu jeune.
Ça fait faire du sport.
Oui, ça fait faire
un minimum d'exercice.
Du sport, oui, je dois le monter à peu près 30 à 40 fois par jour, donc oui. Mais j'aime bien. Je me suis complètement adapté à la
configuration,
à cette configuration sur deux étages et demi et au quartier que j'adore aussi.
Quartier du Marais.
Dans le quartier du Marais, tout près du musée Picasso, oui. Pas loin de la République. Donc voilà, je suis.
Vous êtes un homme heureux ici.
C'est un homme heureux dans son cocon.
On va débuter l'émission par votre portrait, une séquence sonore, votre portrait vu par Alexandre Lemierre, Pascal Bruckner.
À Notre-Dame de Paris, dans la nuit de Noël 1948, pour la première fois au monde, une messe est télévisée.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Au cœur du quartier latin, à deux pas du Panthéon, une institution, le lycée Henri IV. Ici, depuis 200 ans, on fabrique les élites du pays, un cercle très fermé.
Cette réunion avait pour but d'informer les étudiants dits modérés que un mouvement modéré et surtout apolitique s'était formé à la Sorbonne. Mouvement apolitique formé de professeurs, étudiants et professionnels, ce qui fait son originalité.
Pascal Bruckner, romancier, Lune de Fiel, Paria, et puis vous avez écrit avec votre ami Alain Finkielkraut des essais, comme notamment le nouveau discours amoureux.
Le désordre amoureux.
Et le palais des claques, c'est un conte que vous venez de faire paraître aux éditions du Seuil dans la collection, l'excellente collection de poche, s'appelle Virgule. Alors vous aviez 20 ans. 20 ans en mai 68.
Musique disco, peinture ultra réaliste du 19e siècle, deux représentations d'un des plus grands philosophes utopistes. Charles Fourier, byzantin et universel, penseur social, inspirateur des phalanstères, théoricien d'un monde nouveau.
Comment pourrait-on définir votre travail, Roland Barthes ?
Il se présente, si vous voulez, comme une collection de matériaux, d'analyse de mythes de la vie quotidienne moderne à nous français, le tout couronné par une sorte d'essai plus théorique sur ce que peut être alors un peu plus abstraitement la notion de mythe aujourd'hui.
Invité d'Antenne 2 midi après ce beau record, Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner pour un livre qui est intitulé « Au coin de la rue, l'aventure ». Un essai de philosophie appliquée et drôle sur la façon moderne, disons, de découvrir l'aventure dans une société qui est bien banalisée.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux sortes d'aventures, si vous voulez. L'aventure classique, qui est l'affrontement avec le risque ou la mort. Cette aventure-là, évidemment, n'est pas morte, au contraire, elle est bien vivante aujourd'hui. Mais il nous semble qu'elle est quand même relayée par un second type d'aventure, qui est l'aventure au quotidien, c'est-à-dire qui est de l'ordre de la surprise, du hasard, c'est-à-dire ce sont ces moments d'intensité qui, dans la vie quotidienne, font mémoire et qui permettent à la vie, comme ça, de devenir une espèce de roman.
Moteur !
Quelle soirée géniale ! Je voudrais qu'elle dure toute la vie.
La vie, c'est long, tu sais, Mimi. Je vois les choses autrement, depuis toujours.
Mais quand quelque chose vaut le coup, tu voudrais pas que ça dure toute la vie ?
Si, si, bien sûr. Mais rien ne dure jamais toute la vie.
Et nous deux, alors ?
Ça vaut le coup, nous deux ?
Tu trouves pas ?
Puisque tu me l'as demandé, non. Plus maintenant.
Champagne pour Grasset après des semaines d'attente et peut-être un peu d'angoisse. Le verdict en tout cas est tombé. La maison d'édition réussit le coup double, le doublé, le Goncourt pour Patrick Rambaud pour son roman La Bataille.
et le Renaudot pour Pascal Bruckner et ses voleurs de beauté.
New York University, commonly referred to as NYU, is located in Manhattan. Founded in 1831, the school is the largest private institution in the nation.
Another Connery, un film très filmé.
Si ce film existait vraiment, le Nouvel Observateur vous en parlerait aussi. Le Nouvel Observateur, tous les films à voir et à ne pas voir.
Parce que seules les grandes mobilisations ont le pouvoir de changer le monde, seul votre soutien permettra d'éradiquer la faim. Ensemble, construisons un monde sans fin.
La présence de ces avions serbes d'appui au sol de fabrication yougoslave est détectée par les avions radars AWACS de l'OTAN qui surveillent 24 heures sur 24 l'espace aérien bosniaque. Et pour la première fois depuis 22 mois de guerre en Bosnie, les forces de l'OTAN décident d'intervenir.
Madame, Monsieur, bonjour. La totalité de ce journal sera bien évidemment consacrée à la guerre en Irak. De nouvelles explosions ont été entendues à Bagdad il y a un peu plus d'une heure avec le survol d'avions de combat dans la région.
Ce qui est en train de se passer en Irak, c'est effectivement, il a des armes de destruction massive.
Abu Ghraib est un symbole pour les djihadistes. Elle a fermé ses portes en 2013. Aujourd'hui, les djihadistes veulent la détruire.
Près de 70% des détenus sont malades et souffrent de troubles mentaux du fait des sévices commis par les soldats américains dans les centres de détention.
Bonsoir à tous. Il y aurait donc, entre guillemets, de nouveaux philosophes, une nouvelle philosophie. Est-ce l'effervescence parisienne de quelques esprits doués, ou bien un véritable mouvement philosophique structuré, profond, durable? Et puis ces nouveaux philosophes sont-ils de gauche ou bien sont-ils des philosophes de droite?
Quelques pages de l'histoire de votre vie, en tout cas de votre carrière, Pascal Bruckner.
Oui, oui, non, j'aimais beaucoup la voix de Pivot et, l'interview sur Antenne 2, parce qu'à l'époque on disait Antenne 2. Mais ça fait bizarre de réentendre sa voix d'homme jeune. Je trouve qu'elle manquait de... Je sais pas, elle manquait d'être, elle n'était pas posée, elle était encore un peu
hésitante.
Oui, et puis elle était un peu encore immature. C'est une voix haut perché. Donc je préfère quand même avoir pris la voix d'un homme mûr que cette espèce de filet qui m'aurait indisposé à l'époque si j'avais été spectateur.
On a évoqué vos études au lycée Henri IV, le philosophe Charles Fourier, à qui vous avez consacré votre thèse sous la direction de Roland Barthes. L'extrait du film Lune de Fiel, adapté de votre livre par Polanski, La Californie, parce que vous y avez enseigné à une époque. Le Nouvel Obs, ça fait partie du magazine dans lequel vous avez travaillé, aussi pour beaucoup de quotidiens. On a rappelé votre Renaudot pour Les voleurs de beauté. Vous avez été administrateur de Action contre la faim de 83 à 88. Et puis votre soutien à l'intervention de l'OTAN en ex-Yougoslavie et l'intervention américaine en Irak, illustrée par l'intervention de Romain Goupil. Et puis cette question pour conclure, les nouveaux philosophes sont-ils de gauche, droite? Alors ça dépend lesquels.
Oui, ça dépend lesquels. Puis ils étaient plutôt de gauche, ils appartenaient à la gauche, mais
ils sont passés à droite.
C'était un mouvement qui était antitotalitaire, donc qui en principe aurait dû réunir tous les camps. Mais la gauche a eu beaucoup de mal à se défaire de sa fascination pour l'Union soviétique, pour le maoïsme, pour les Khmers rouges. Et la réflexion sur le totalitarisme s'est un peu arrêtée aujourd'hui, ce qui explique que toute une partie de l'intelligentsia continue à souvent à s'extasier pour des régimes dictatoriaux lorsqu'ils sont érigés au nom du peuple et contre l'impérialisme. Mais est-ce qu'ils sont de gauche ou de droite? L'important, c'est qu'ils disent la vérité. Je suis pas sûr que gauche et droite soient encore des notions très pertinentes pour expliquer, en tout cas, la philosophie. Bon, on en a besoin dans la vie politique, mais...
On en a encore besoin dans la vie politique.
Oui, dans la vie politique, on en a besoin parce que ça...
Le président actuel dit.
Ça permet d'éviter le recours aux extrêmes. Et donc, il n'est pas bon qu'un président au centre soit l'arbitre entre deux extrémismes. Il serait préférable qu'il y ait une gauche forte et une droite puissante, mais ça n'est pas le cas pour l'instant. Et donc, ces camps politiques sont en crise. Mais la philosophie, en principe, elle est au-delà des divisions. Elle cherche une vérité qui est un peu, qui n'est pas partisane.
Vous avez eu Roland Barthes comme professeur. Quel impact ça a eu sur vous? Quelle influence ça a eu sur vous?
Ben, une influence que je mesure tous les jours, parce que c'est bon, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé et qui nous a beaucoup influencé tous les anciens élèves de Barthes. Il y en a beaucoup que je revois aujourd'hui. Et à la fois c'est un mélange d'agacement parce qu'il y avait chez lui un côté précieux, et puis il y a eu des engouements pour les modes de son époque, notamment la haine du roman, la haine ensuite qui s'est transformée en fascination, en envie d'écrire un roman. Il a été très suiviste avec le groupe tel quel, au point de s'extasier sur la Chine maoïste, mais par ailleurs, c'était un homme extrêmement séduisant et qui a inventé une langue à l'intérieur de la langue française, avec toutes sortes de petits trucs, de procédés qui exaspèrent les puristes, mais qui nous ont follement séduits, au point qu'on est devenu, on a fait du Roland Barthes sans peine pendant des années, comme l'a très bien caricaturé Patrick Rambaud dans un de ses livres. Mais Barthes est probablement, de tous les penseurs des années 60-70, c'est un des rares qui survit avec Michel Foucault. Les autres, oui, bien sûr aussi, mais Barthes a une postérité et qui touche tous les continents, puisque son livre « Fragments d'un discours amoureux » a été salué aux États-Unis aussi, que je crois qu'un auteur américain a même fait un livre entier à partir de celui-là.
Donc universel et intemporel.
Donc voilà, universel et intemporel, oui.
Dans les années 70, les années 70, vous avez publié deux ouvrages qui ont fait beaucoup parler, Le Nouveau Désordre Amoureux et Au coin de la rue, L'Aventure, les deux coécrits avec Alain Finkielkraut. L'idée du Nouveau Désordre Amoureux, c'était quoi? C'était démentir le mythe de la révolution sexuelle post-68.
Voilà, c'était à la fois dire que la révolution sexuelle, c'était pas une libération qu'une inversion des dogmes. C'est-à-dire là où il était interdit de jouir, ça devenait obligatoire. Et puis dans la révolution sexuelle, on faisait l'économie du sentiment, et puisque le mai 68 avait décrété dans la lignée des libertins du XVIIIe siècle et de Wilhelm Reich que le sentiment n'était qu'une superstructure de la sexualité, et qu'en réalité, si on avait une vie sexuelle normale, toutes les fumées de la tendresse disparaîtraient, la passion elle-même se disciplinerait, et on quitterait le vieux monde. Se disciplinerait et se dissiperait aussi. Donc on n'aurait plus jamais les situations à la Jean Racine, à la Proust, au Fromentin de Dominique, tout ça, à l'Adolphe de Benjamin Constant. Tout ça serait fini parce que justement l'être humain aurait trouvé sa vérité, qui est l'exercice d'un érotisme régulier, quotidien et achevé par une satisfaction pleine et entière. C'était la fonction de l'orgasme dont parlait Wilhelm Reich. Et on a essayé de dire que tout ça était peut-être un tout petit peu simplificateur, et que le cœur et le corps n'avaient pas toujours des rythmes accordés. Et le livre a eu un immense succès. Alors aujourd'hui, il me semble un peu bavard, un peu complaisant. Mais à l'époque, ça a eu beaucoup de succès et ça a été très bien accueilli. Il y a eu des éditions pirates dans tous les pays d'Europe. Le seul pays où il n'a pas été traduit, c'est aux États-Unis.
Ah oui.
Ils trouvaient ça trop obscène.
Mais bon, l'Amérique. Le puritanisme américain.
Oui,
dans
ce qu'elle est, c'est normal. Voilà, c'était ça. Ça a été le message, et ce message a été reçu comme libérateur. Parce qu'à la fois, on reprenait les slogans émancipateurs de mai 68 tout en les corrigeant, tout en expliquant ce qu'ils pouvaient avoir d'oppressant pour les individus.
On va écouter, c'est votre show musical, Jill Scott avec Family Reunion. We at the family reunion, telling jokes and playing spades. Uncle Dave is on the barbecue grill. Grandma bragging about the blanket she made for the new baby on her way. Even though the daddy ain't really ready, this child is coming anyway. Yeah, Niecy made her famous potato salad. Somehow
Pascal Bruckner et je suis dans la conversation.
La conversation.
Pascal Bruckner, expliquez-nous ce que l'on voit sur vos murs. On est dans votre bureau. Il y a pas mal de toiles. S'il y en avait une à raconter,
que vous avez envie de nous décrire. Il y en a une qui est partie dans un musée, mais il reste un dessin. Ça, c'est...
C'est le noir et blanc là.
Ouais, noir et blanc, c'est un dessin. Mais j'avais une autre toile plus grande. C'est une gitane autrichienne qui s'appelle Stojica, qui est allée à Dachau et Bergen-Belsen et Auschwitz en 43. Et elle avait 10 ans. Et vous voyez, c'est le dessin qui est sous le tableau bleu.
je regarde aussi un peu.
Donc, 20 ans après. Elle avait complètement étouffé cette histoire. Elle a survécu. Tous ses parents ont été tués. 20 ans après, elle a commencé à dessiner. Elle a fait 1000 toiles de peinture, dessin. Et elle a été exposée à Maison Rouge à Paris. Et là, elle est exposée en Espagne, à la Reina Sofia et en Hollande. Et donc, c'est un ami qui m'a dit un jour, je viens de voir un truc extraordinaire. Vas-y, j'y suis allé tout de suite. J'ai acheté deux toiles sous le coup de l'enthousiasme. Donc voilà, ça c'est la dernière aventure. Bon, les tableaux se coûtent très cher, donc on peut pas se permettre d'en acheter tous les matins. Mais l'autre.
Vous pouvez nous le décrire ce qu'on y voit.
Alors ben donc là c'est son arrivée, je crois, à Bergen-Belsen, c'est en 43, et les SS séparent les enfants des parents. Et donc, ils emmènent les blessés ou les gens fatigués vers l'exécution. Donc voilà, c'est des souvenirs d'enfance. Elle a fait des choses absolument extraordinaires avec des fleurs de chardon, des oiseaux au-dessus des crématoriums. Et c'est vraiment, c'est une peinture naïve, mais dans lequel il y a quand même un certain métier. C'est quand même la peinture de quelqu'un qui a beaucoup étudié les grands artistes précédents.
Vous parlez de votre père dans votre livre à mon fils que vous avez écrit après sa disparition. Vous racontez son antisémitisme. Vous qu'on a qualifié d'intellectuel juif, alors que vous ne l'étiez pas juif, mais vous étiez intellectuel, vous me confirmez.
Oui, j'essaye. Mais oui.
Comment est-ce qu'on se construit pour devenir un peu plus sérieux avec un père qui a de telles idéologies et qui... Vous vous élève et vous éduque dans, dans telle pensée?
D'abord, quand on est jeune, on ne pense pas à se construire. On se défend, on se protège, on essaie de trouver sa voie. Alors, il y a trois moyens. Soit on embrasse l'idéologie paternelle. Et donc, à ce moment-là, on gagne ses faveurs et on le met dans notre camp. Soit on se ferme et on est indifférent, soit on se dresse contre lui. Et je pense que j'ai dû, tout au cours de ma jeunesse, osciller entre les trois, plus ou moins selon l'état de ma croissance. Et puis à partir de 12-13 ans, ça a été la révolte et ça a été l'insurrection contre ce père qui avait une passion, dont l'antisémitisme n'était pas simplement une opinion, mais une passion quotidienne.
Une obsession.
Une obsession, oui. C'était dès le petit déjeuner, les Juifs, à midi, les Juifs, le soir, les Juifs, est-ce qu'un tel, il n'est pas juif, etc. Et donc...
Plus globalement, vous le racontez, c'était un tyran, c'était un despote,
il était autoritaire, pour dire le moins. Ouais. Il était autoritaire, surtout avec ma mère. Bon, il m'a... Alors, c'était l'époque, hein. On recevait des raclées, mais mes cousins, c'était la même chose. Et c'est pas ça qui m'a traumatisé, c'est plus celles que prenait ma mère, et puis les humiliations qu'il lui a fait subir. Donc, finalement, je m'en suis très bien sorti, sans doute parce que j'étais un garçon. Si j'avais été une fille, ça aurait été beaucoup plus dur. Si j'avais été homosexuel, alors là, ça aurait été, à mon avis, terrible. Mais parce qu'il n'était pas très progressiste sur ce plan, pour dire le moins, Mais voilà. Alors, comment on fait pour se construire? Ben, la révolte est un excellent moyen de se poser en s'opposant. Et l'avantage de cette éducation, qui a été par ailleurs une bonne éducation, hein, parce que mon père était un homme cultivé, qui m'a mis chez les bons pères à Lyon, c'est que vous savez tout de suite ce que vous devez faire. Vous devez aller contre celui qui essaye de vous plier à ses desseins, à ses désirs. Et donc, ça a été une manière pour moi de m'affirmer contre lui. Et d'une certaine façon, je suis reconnaissant de cela. Et je pense que les éducations trop libérales sont très angoissantes pour les enfants, parce qu'ils ne savent pas exactement sur quel pied danser. Au moins, moi, j'étais d'emblée au clair avec lui. Mais bon, après, j'ai suivi jusqu'au bout. On s'est pas vu pendant de nombreuses années, mais à partir du moment où ma mère est morte, je me suis occupé de lui. Et puis là, il a eu une longue période libérale. C'est très curieux, les évolutions politiques chez les gens, c'est-à-dire qu'il est devenu de gauche. Il a voté communiste, hein, une fois, il a voté Mitterrand. Il s'est mis à lire des auteurs juifs en abondance, parce que c'était manifestement le souci de sa vie. Et puis, vers la fin de sa vie, il est retombé dans la vieille manie. Et à l'hôpital, il a rencontré une femme qui venait d'enterrer son mari et qui était elle-même antisémite, dont je crois il avait été l'amant il y a très longtemps aux mines de la Sarre. Et à eux deux, ils ont reconstitué une petite cellule national-socialiste, si j'ose dire, je le mets avec beaucoup de guillemets. Ils se parlaient qu'en allemand.
Non.
Et quand j'arrivais à l'hôpital, j'entendais mon père et cette femme parler un allemand, mais un allemand un peu daté, puisque c'était l'allemand de l'après-guerre. Et il est retombé dans ses marottes. Et donc, à chaque visite, c'était « tu verras, Hitler a eu raison, un jour on lui rendra hommage ». Bon, alors j'ai essayé de le convaincre du contraire, en lui donnant des livres, mais en général, les livres se retrouvaient à la poubelle. Il disait, je sais pas ce qui me retient de mettre ton livre à la poubelle, mais reprends-le, sinon il va finir aux ordures. Donc voilà, c'était oui, ça tenait de la marotte, exactement, de la marotte de
quasi pathologique, comme vous
oui, quasi pathologique, jusqu'au jour où j'ai découvert, mais je raconte dans le livre, et ça m'a beaucoup troublé, j'ai toujours pas la réponse. Il a eu un épisode délirant à l'hôpital, donc ils l'ont amené une fois, quand il était chez lui, ils l'ont emmené aux urgences. Il était dans ce petit habit qu'on fait porter aux malades en papier, et il était nu en dessous, et là j'ai vu qu'il était circoncis. Et alors là j'ai cru que j'avais la berlue, et je lui ai dit après, quand il s'est réveillé, il m'a dit mais fiche-moi la paix, jamais de la vie. Et donc j'ai jamais su pourquoi, jamais su si c'est vrai, si c'est une opération, Donc il y a un mystère pour moi là-dedans, que j'ai interrogé sa sœur quand elle était encore vivante, mais personne n'a pu me répondre, et surtout pas lui. Donc voilà le...
Très romanesque.
Oui, c'est romanesque, mais c'est troublant.
T'imagines.
Mais enfin, aujourd'hui, je me fais traiter de sale sioniste dans la rue assez fréquemment. Donc,
à chaque époque, c'est plaisir.
À chaque époque, c'est plaisir. Donc j'imagine que mon père se retourne dans la tombe. Ouais. Chaque fois qu'on me dit cela, parce qu'il il avait l'habitude d'écrire aux journaux pour dire « mon fils n'est pas juif, c'est une erreur ».
Votre nouveau roman, Pascal Bruckner, s'appelle « Un an et un jour ». Voici une séquence sonore qui va non pas raconter son histoire, mais en tout cas évoquer un certain nombre des thématiques qu'il aborde.
Quand j'étais petit, au début des années 80, j'adorais la série K2000 parce que le héros avait une montre qui lui permettait de communiquer avec sa voiture. Il a fallu que je trouve autre chose pour assouvir ma passion pour les montres révolutionnaires. Et devinez quoi ? J'ai trouvé.
Montréal, dans un grand Boeing bleu de mer, j'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales.
Mesdames et messieurs, ici le centre Jean Paul. Vous devez demeurer assis avec votre ceinture de sécurité bouclée jusqu'à l'extinction des consignes lumineuses.
Pendant 10 minutes, des grêlons gros comme des balles de tennis frappent le pare-brise. La foudre, à deux reprises, touche l'avion.
Our windshield is up.
Bien, messieurs, votre commandant, pour vous tenir au courant, nous sommes présentement à 35 000 pieds. Nous avons de la turbulence due à nous traversons un jet stream, un courant plus fort d'environ 200 km/h.
Au-delà des classiques dimensions où l'homme projette ses pas, il en est une par où s'échappent ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vous fait basculer dans le fantastique.
Lundi, 27 avril 1992. Au quatrième temps, il sera 17h53.
Lundi, 27 avril 1992.
Et si la fin du monde, ce n'était qu'une question de secondes? 120 secondes, pour être précis. 2 minutes avant le point de non-retour. 2 minutes avant l'apocalypse.
Monsieur Grady, vous avez été le gardien de cet hôtel. Je vous ai reconnu. J'ai vu votre portrait dans toute la presse. Vous avez découpé votre femme et vos filles en petits morceaux. Et vous êtes brûlé la cervelle.
Vous êtes retrouvé dans l'univers de votre livre ?
Oui. Charlebois, Montréal... Bien sûr, oui, tout à fait. C'est.
Et puis le temps, ce dérèglement du temps. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Jezabel. C'est une jeune prof de maths, elle a 26 ans. Au début du livre, elle vient de perdre son père, qui est un grand collectionneur complètement dingue des montres, et qui a créé une montre qui s'appelle Révélation, qui est assez étonnante puisqu'elle ne donne pas l'heure, mais elle pourrait bien bouleverser l'ordre du temps. Et son père lui demande d'aller présenter au salon de l'horlogerie à Québec cette montre. Elle prend l'avion, le vol est perturbé par une tempête, l'avion finalement atterrit au nord des États-Unis, elle prend un taxi, elle ne sait pas du tout où elle est, elle se retrouve dans un hôtel, elle passe une nuit, elle se réveille le matin, elle demande la note, et là on lui dit « il y en a pour 100 000 dollars ». Elle demande « mais pourquoi ?»« Parce que vous avez passé un an et un jour ». Elle y croit pas, vraiment, et finalement, bon, on arrive à lui prouver que c'est le cas. Elle doit cet argent qu'elle n'a pas, et elle se fait engager, c'est le seul moyen de ne pas aller en prison, dans cet hôtel, où elle va devoir travailler pendant des mois pour rembourser cette année passée. Et j'y ai vu, vous allez me dire si vous êtes d'accord, une sorte de métaphore du capitalisme dans cet hôtel. Tout y est très organisé, cloisonné en fonction de la richesse, de la pauvreté, de son pouvoir, de sa soumission. Il y a aussi l'idée d'une dette qui est pas très claire, on ne sait pas si c'est vrai ou inventé de toute pièce. Il est question du rapport de force en fonction de l'échelon social, de l'exploitation humaine. Cet hôtel sur Alice, c'est un peu la mondialisation dans toute son horreur.
Oui, c'est
exagéré, mais il y a de ça.
C'est l'univers des, c'est aussi l'univers des femmes de chambre, de la domesticité. Donc, elle est réduite à une condition quasi servile, et elle vit avec cette idée d'une dette qui est suspendue au-dessus de sa tête, mais dont elle n'est jamais sûre qu'elle pourra la rembourser parce qu'elle n'est pas maître du tout d'économiser l'argent et de le rendre, parce que la direction de l'hôtel qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne voit pas, qui c'est toujours des gens qui sont délégués par le bureau, mais qui changent. Elle n'est jamais sûre que finalement la direction lui dira un jour, vous pouvez partir, ça y est, vous êtes quitte.
C'est un cauchemar.
Oui, c'est un cauchemar, oui. C'est un cauchemar et c'est aussi un livre sur la condition d'un otage ou d'une otage, puisqu'elle a été kidnappée, qu'elle essaye de s'évader plusieurs fois. Elle ne peut pas, elle ne parle pas l'anglais, elle déteste les États-Unis. Et elle, c'est une fille de la montagne, donc c'est vraiment quelqu'un qui n'aime que les Alpes, et donc le monde des grandes villes et le monde du nouveau monde lui est a priori hostile. Même le froid, même la neige la dégoûte là-bas, et elle se demande si c'est finalement la montre de son père qui a déréglé le cours du temps, puisque cette montre, elle a comme particularité non pas d'indiquer l'heure, mais de détruire le temps. Et le père espérait, en la construisant, aider Dieu à réparer la création. Le père était un pasteur protestant très strict.
Il dit Dieu a inventé les montres pour capter le temps, et il a inventé le temps pour punir les hommes. Sais-tu la mission qu'il m'a assignée à moi, obscur révérend, inventer la montre qui effacera le temps et réparera la faute originelle. Ce qui n'est pas rien.
Oui, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien, effectivement. Puisque dans le protestantisme, on peut s'arroger une volonté divine, puisqu'il n'y a pas de, comme chez les catholiques, il n'y a pas une église centrale qui contrôle le dogme. Et donc, le père se croit investi d'une mission, et c'est sa pauvre fille qui va l'accomplir. Et à partir du moment où elle monte en avion, d'abord elle a peur, parce que l'avion est, comme vous l'avez dit dans votre présentation, l'avion est agité dans les turbulences. Moi-même, j'aime pas trop l'avion, mais enfin,
vous en parlez souvent.
Et je suis pas le seul. Et à partir du moment où elle part, elle sait qu'elle risque le pire, puisque le cauchemar commence quand on quitte les lieux familiers. Souvent.
Vous avez quoi, vous, comme rapport avec le temps? C'est plutôt votre ami, un ennemi? Vous essayez de l'amadouer?
Ben oui, j'essaie de l'amadouer, comme tout le monde. J'essaie de le tromper, j'essaie de le doubler, j'essaie de le ralentir,
de le suspendre.
Certains moments, oui.
Certains instants.
À certains moments, oui. Pas toujours, parce que quoi qu'on fasse, le temps avance. Donc on a le temps est scandé par les anniversaires, au moins, qui là vous rappellent au principe de réalité. Donc ça, c'est très dur. Mais je pense qu'il y a de multiples moyens d'éluder l'injonction des grands chiffres. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais véritablement l'âge de son âge. Il y a des gens qui sont en avance sur leur âge, c'est-à-dire qui paraissent déjà à 50 ans, qui en paraissent 20 de plus. Et puis, ce qu'on essaie, c'est de ruser justement avec le temps et de le freiner par tous les moyens. Et ce qu'on sait, c'est que toutes les parties du corps ne s'usent pas à la même vitesse. Et donc, voilà, on essaie de rester actif, dynamique, au moins encore quelques années.
Dans l'euphorie perpétuelle en 2000, vous écriviez « Le bonheur est de jadis ou de demain, dans la nostalgie ou l'espérance, jamais d'aujourd'hui ». Il y avait déjà cette histoire de temps. On est bien, été bien ou on sera bien, mais on n'est pas bien.
Voilà, c'est ça, c'est cette idée que finalement, on a beaucoup de mal à habiter dans le présent. Et qu'on se projette dans un avenir, même un avenir proche ou un passé lointain, mais que le présent est une dimension très difficile à concevoir. Mais c'est un des classiques de la philosophie depuis Saint Augustin, c'est effectivement d'expliquer que le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, donc la seule dimension qui est vraiment solide pour nous, c'est celle de l'instant.
Et pourtant, vous n'y êtes pas heureux.
Et pourtant,
vous n'y êtes pas heureux dans l'instant présent.
Ah si.
Enfin, ce que vous écriviez, c'est que vous étiez heureux plutôt dans le passé ou dans le futur.
Oui, c'est un des risques, c'est effectivement de ne pas savoir profiter de l'instant qui passe. Mais c'est une chose qu'on apprend avec le temps, justement. Le temps peut nous désagréger, mais aussi nous éduque. Et donc
il en faut finalement.
Donc finalement, le temps peut être un allié. Il n'est pas qu'un ennemi.
Le père de Jezabel est donc totalement obsessionnel d'horlogerie. Ce qui est drôle, c'est que sa femme, elle, adore les valises. Est-ce que vous avez une obsession aussi, vous collectionnez des choses? Vous connaissez ce plaisir de...
J'aime beaucoup les montres.
Vous collectionnez les montres?
Oui, je collectionne les montres, dont le seul tort, c'est d'être extrêmement cher.
Comme par hasard, les montres.
Oui, comme par hasard, les montres. Donc, j'aime beaucoup les montres. J'en ai une 10 ou 12.
C'est raisonnable.
J'en revends pour en acheter d'autres. Mais oui, voilà, c'est la seule manie que j'ai. Vraiment. Les valises, non, ne me font aucun plaisir. Elles sont purement utilitaires. Mais oui, la collection, c'est une certaine façon de se rassurer, tout en laissant toujours une issue ouverte, puisque rien ne ferme une collection. Même imaginons que j'achète la plus belle montre, il y aurait toujours derrière elle une autre montre dont j'aurais envie et qui me ferait plaisir. Donc c'est ce côté illimité qui en fait le caractère à la fois obsessionnel et lassant pour les autres, parce que les autres disent encore, mais ouais, c'est la même répétitif qu'avant.
Mais non, pas du tout, il y a un tout petit
détail.
Mais
non, tu vois pas que le cadran est différent.
Jezabel, l'héroïne de votre livre, dit à un moment à un homme très riche à qui elle lit des livres justement pour gagner de l'argent et qui en réalité lui ne comprend rien à la lecture: commencez par ranger vos livres sur des étagères, vous pourrez en consulter la tranche, en admirer les jaquettes. Les livres doivent se humer, se cajoler, ce ne sont pas des objets ordinaires mais des êtres sensibles. Vous pourriez dire ça vous aussi?
Ah oui, tout à fait, oui. Oui, je pense que c'est tout à fait vrai.
D'ailleurs, vous avez des bibliothèques dans tous les sens. Que l'on a traversé.
Je dors dans les livres en haut. Puisque...
Il y en a aussi là-haut.
Oui, là, il y en a. Oui,
parce qu'il y en a dans l'entrée. Il y en a
deux ou trois cents en haut. Oui, je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à lire sur Kindle ou sur une tablette. C'est que pour moi, un livre, c'est une couverture. C'est du papier. J'aime l'objet physique. Alors évidemment, c'est lié à ma génération et à... Mais je vois que même beaucoup de jeunes gens aujourd'hui continuent à aimer à lire des livres en papier et en carton, bêtement. Et les journaux, je les lis sur papier. J'ai beaucoup de mal à les lire sur ordinateur ou sur une tablette, mais enfin, je m'y plie quand je suis obligé, quand il y a une information importante. Mais pour le livre, vraiment, je préfère porter des livres en vacances, même lourds, que d'avoir ça sur une surface plane.
Vous avez rêvé d'être pianiste de jazz, vous nous l'avez dit tout à l'heure, votre choix musical du moment c'est Errol Garner, peut-être l'un des plus grands pianistes, et voici une composition de Harry Baris, I Surrender Dear. Pascal Bruckner, dans votre livre Le Divin Enfant, vous posez la question: croyez-vous qu'un seul bébé accepterait de naître si on lui représentait ce qu'il attend en réalité? Vous racontez l'histoire de Madeleine, qui est enceinte de jumeaux et qui décide d'instruire ses petits, et ce, dès les premières semaines de sa grossesse. Au bout de 6 mois, les deux fœtus ont atteint le niveau de connaissance d'un étudiant. Ils apprennent ainsi l'existence de la souffrance, de la maladie, de la guerre, si bien qu'au moment de venir au monde, ils se demandent naître ou ne pas naître. Vous auriez fait quoi, vous, à leur place, si vous aviez été déjà très
aujourd'hui,
renseigné?
Avec l'expérience que j'ai, je serais né.
Vous y seriez allé quand même?
Oui, j'y serais allé. Moi, j'y
parce
serais
que
allé,
votre
parce
vie...
Parce que ça vaut quand même le coup. Et que les parois d'un utérus, si agréable soit-elle, quand même vous privent d'un certain nombre de dimensions de l'existence. Mais enfin, il faut prendre le risque de la naissance. C'est-à-dire, effectivement, subir ce traumatisme, Marie, tout d'un coup, les poumons sont brûlés par l'oxygène, c'est les hurlements, c'est les vagissements, c'est cette vie absurde du bébé qui est totalement dépendant, qui est une sorte de créature larvaire qui tète et qui fait ses besoins. Mais passer ce stade, un peu désagréable, mais qui est, paraît-il, très formateur. Oui.
Paraît-il. L'humanité en est la preuve.
Oui. Non, non, bien sûr. Non, non. Mille fois l'existence que le néant.
Est-ce qu'il est vrai que vous faites toujours 3-4 versions de chacun de vos livres?
Oui, oui, oui. C'est tout à fait vrai. Même parfois plus. Oui.
C'était le cas pour le nouveau, Un an et un jour?
Oui, pour le nouveau, oui. Le nouveau, il y en a eu 5 même.
5 versions.
On a eu du mal à trouver la fin avec l'éditeur.
Vous partagez beaucoup avec lui?
Oui, oui, mon éditeur m'a, il a trouvé le titre, et ce qui est pas mal.
Dur, mais c'est déjà
bien. C'est énorme, et puis il m'a beaucoup influencé, oui, oui.
Ça aurait pu finir autrement, ou ça aurait pu être
oui, oui, ça aurait pu finir
différent.
Autrement, oui, oui. Enfin, disons, dans le même cadre, mais un tout petit peu différemment. Mais c'est toujours dur de terminer un roman.
Pascal Bruckner, la plus belle conversation de votre vie, c'était quand et avec qui?
La plus belle conversation? Bon, j'en ai eu beaucoup, des conversations. Vous dire, ah, j'aurais du mal à vous dire.
Qu'est-ce qui vous vient comme ça? Il y a un souvenir, une personne qui vous est apparue?
Si, alors, je vais faire mon Mathieu Ricard, vous savez, le secrétaire du Dalai Lama. Oui, oui, je pourrais dire que j'ai eu une conversation avec un sadhu dans une forêt à Rishikesh en Inde.
Est-ce que c'est vrai au moins?
Non, c'est tout à fait vrai. Mais c'est l'homme était très beau, très digne. C'était un vieux monsieur qui était assis sur une souche d'arbre à 2000 mètres d'altitude. Ça a beaucoup marqué. Est-ce que la conversation était particulièrement profonde? Honnêtement, rétrospectivement, je suis pas sûr. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais j'ai simplement compris. Après cela, que ce ne serait pas ma voie. Ma voie, c'est pas l'ascétisme, c'est pas le retrait de la vie humaine, et donc ça n'est pas cette spiritualité de pacotille qu'on nous vend aujourd'hui sous le nom de bouddhisme. Donc, mais peu importe. J'adore l'Inde. C'est un pays où je vais depuis plus de 30 ans, donc j'ai été très séduit. Mais la plus belle conversation, non, c'est. C'est souvent des choses très simples qui vous éclairent, mais je dirais pas que j'en ai eu une. J'ai eu beaucoup de belles conversations.
Merci beaucoup pour cette conversation.
Ah, c'est déjà fini?
C'est déjà fini, ça fait...
Ah, ça s'est passé vite.
Je vous propose de clore cette conversation en musique avec quelques notes d'un morceau qui apparaît dans les dernières pages de votre nouveau roman Un an et un jour, Schubert. Son quatuor à cordes numéro 14 en ré mineur.
Ça,
voici
c'est magnifique.
La jeune fille et la mort. On écoute l'Andante con moto par le quatuor Vossé.
Ah, et c'est magnifique, ça, oui.
Super.
Ah, c'était rapide, ah oui, je...
Ouais.
Moi, j'étais en train de me chauffer.
Comme au début d'année. Merci beaucoup.
Bon, ben, je vous en prie.
C'était vraiment très
chouette. Merci à vous, bienvenue.
Merci.
Bon, merci beaucoup.
Merci. À bientôt.
Merci d'avoir écouté la conversation aujourd'hui avec Pascal Bruckner. La réalisation était d'Alexandre Lemierre. Si vous souhaitez réécouter ce programme, vous pouvez vous rendre sur le www.rts.ch/laconversation. Bertrand Bichot au micro, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, je vous laisse avec cette pensée de Robert Louis Stevenson dans Causerie et causeur. Le premier devoir d'un homme, c'est de parler. Voilà sa tâche principale dans l'existence. Et la conversation, qui est l'échange harmonieux entre deux personnes ou plus, est de loin le plus accessible des plaisirs.
La 38e édition de l'AMR Jazz Festival se déclinera en 6 soirées de double concert au sud des Alpes, à Genève, présentant musiciens internationaux et richesses de la scène locale. ADHD, Enrico Rava, le trio Danilo Perez, John Patitucci, Terry Lynn Carrington, John Arham Underground Orchestra et Manu Hagman's Choice, pour ne citer qu'eux, seront au menu de ce festival de haute tenue. Retrouvez le meilleur de l'AMR Jazz Festival.